Tu respecteras le mardi. Le mardi est un jour réservé aux anges. Le prophète des anges, c'est Ézéchiel. Et il voit les séraphins, et il voit les chérubins. Et il est emporté avec eux. Et l'Église nous donne aujourd'hui, l'ange de l'Église, la grande messagère de l'Église, nous donne le livre d'Ézéchiel et l'évangile de Saint Jean dans le temple. Dans le temple. Dans le temple où Ézéchiel voit l'ange, les séraphins, les chérubins, les gloires de Dieu. Cabrottes angéliques hein, qui de leur souffle bon, écartent et la possibilité des mauvais de pénétrer dans ce qu'il y a de plus sacré, dans ce qu'il y a de plus secret à l'intérieur du corps, du Saint des Saints, et pas seulement du Saint des Saints, mais tout le temps. Du corps de l'homme, parce que le temple représente le corps de Jésus. Le corps qui doit être relevé. Et troisièmement, l'Église, enfin, Saint-Esprit, le ciel tout entier, Marie, est toute... à son regard entièrement concentré dans sa médiation, comme reine immaculée de l'univers, reine des anges, reine médiatrice de toute grâce, mère de l'Église entière, quoi. Eucharistiquement, dans les jours où nous sommes, elle nous amène à ce passage où elle nous ramène toujours à Saint Joseph. Donc voilà, à Saint Joseph, à ce, l'évangile, voilà, que cet homme qui est là depuis 38 ans, 38 ans, vraiment à la porte des brebis, enfin, à la piscine de Bethesda, dans la piscine des cinq portiques, donc vraiment dans l'abri quasi agréé de la présence de Marie, parce qu'il en est son époux, et il gémit, pour pouvoir plonger dans la fameuse piscine. Toute bouillonnante de l'ange. C'est un ange qui fait bouillonner l'eau. L'ange de Marie qui fait bouillonner l'eau. Alors, au milieu de la France, il y a une espèce de petite piscine comme ça, minuscule, minuscule. À Sainte-Montagne. Alors, la montagne, c'est bien, c'est sainte, du sang royal de France. Toute première génération, la toute première génération du sang royal de France. Sainte, extraordinaire. Elle allait chercher l'eau là, et depuis, on y va, et si on regarde l'eau, si on a l'audace de se mettre dans l'eau comme à Lourdes, alors ça bouillonne. C'est des bulles qui ressemblent à des diamants. Extraordinaire, la montagne de Dieu. S'effondre au creux de la mer et à ce moment-là une purification, une guérison, une bénédiction. Très très peu de gens connaissent cette... J'avais été, je me rappelle, la première fois de ma vie, j'étais accompagné par une personne de la région. Et puis, elle y allait depuis son enfance, elle a toujours été là. Voilà, elle connaissait ça depuis très très longtemps, depuis 60 ans. Et donc nous étions là tous les deux, et on s'est penché sur cette source, qui est en même temps un bac, où on pouvait prendre l'eau qui guérissait, qui était sainte, quoi. Les gens le prenaient parce que, le prenaient pour amener ça chez eux, parce que c'était bien meilleur que l'eau qu'on trouve au supermarché. Voilà, et donc je me penche vers l'eau, comme ça, pour regarder. Alors, elle était à côté de moi, cette femme. Et je regardais, et puis je dis, mais elle bouillonne, non? Elle bouillonne du dessous. Je dis, mais non. Mais si, regardez, elle voyait que chaque fois que nous regardions, ça bouillonnait. Vous vous rappelez de ça, on y était. Alors, elle dit, elle bouillonne. C'est simple, tu regardes, tu poses juste ton regard. Il faut regarder par où l'Église nous demande de regarder. Aujourd'hui, regarde vers le temple, et donc il y a cette piscine là, où l'ange fait bouillonner. L'eau pour que le premier qui rentre là, le premier, se guérit. Il y a des milliers d'infirmes. Eh bien, le premier qui sera guéri, c'est Saint Joseph. C'est vrai, ça fait 38 ans. 19 ans et 19 ans. C'est impressionnant, quoi. Il a fait 19 ans. Pour moi, c'est ça. C'est une danse de chiffres en même temps aujourd'hui. 19 ans et il a supplié que l'ange qui lui donnait justement son inscription dans le livre de la vie et qui lui apportait toujours la mémoire de son corps originel, de la vision et le toucher qu'il avait eu de sa moitié sponsale. Voilà, il suppliait pendant 19 ans, puis dans ce mariage spirituel, il s'est endormi, épuisé, si je puis dire, pas épuisé, mais extasié, ravi, ravissement. Un sommeil, la fameuse torpeur, la fameuse, en hébreu, tardement, bon. Et à nouveau, donc, à partir de là, dans la maison d'Anne et Joachim, a été conçue l'Immaculée Conception, pendant la tardement de Joseph, et Dieu a créé dans notre monde, et dans le sien, l'Immaculée Conception. Et il a fallu encore 19 ans pour Saint Joseph. C'est deux fois 19 ans. Ça veut en dire des choses, vous savez, ça. Et quand 19, comme ça, se fait deux fois, ça désigne, bien sûr, on a bien compris, hein, la transverbération de Saint-Joseph. Cette transverbération, elle s'est faite en même temps que l'Immaculée Conception au pied de la croix, au moment de la réalisation de la prophétie de Simeon Anachi dans le temple de Jérusalem. Le glaive te transpercera de part en part substantiellement. Et c'est en même temps qu'il a été transverbéré, lui, au fond de la croix glorieuse. Et en même temps, la transverbération du cœur de Marie. Cette unique transverbération de l'époux et d'épouse. De l'homme et de la femme. Ses bras... C'est un fleuve qui réjouit toute la cité de Dieu. C'est un fleuve qui s'engloutit comme ça dans le fond de Saint-Joseph. C'est admirable, vous savez. Hein. Et donc Jésus, le premier qui... C'est lui. Alors à ce moment-là, il peut rentrer dans le temple. Avec sa civière, avec le fameux brancard, le brancard de Jésus, c'est mon brancard, et c'est Saint-Sépulcre, alors il peut traverser le temple et parfumer le temple. Et de l'odeur de... Il le porte dans sa main droite, hein, c'est plus que de Jésus. C'est plus qui libère le monde entier. Voilà, c'est l'évangile que nous avons aujourd'hui. Dans ce temple. Le temple, Jésus était déjà L'Église nous donne l'évangile de Saint Jean maintenant depuis hier, aujourd'hui, demain. Et on peut faire ce parcours. Il faut lire comme ça ce passage du chapitre 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'évangile de Saint Jean, parce que c'est au chapitre 2. Hein, au chapitre 1, c'est le Verbe devenu chair, c'est la conception. Toute la révélation sur la conception. Et Jean-Baptiste est là comme témoin. Tournez-vous vers ça. Et l'agneau de Dieu, je pourrais vous montrer qui il est. Et le voici, l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Et au chapitre 2, c'est pas beau, chapitre 2. Jésus, baptise. Avec Jean-Baptiste, il baptise. Et les disciples de Jésus. Il y a trois baptêmes hein, dans deux préparations. Le baptême de Jean-Baptiste, le baptême que Jésus fait sur les bords du Jourdain, et le baptême que les disciples font avec Jésus sur les bords du Jourdain. Ils baptisent. Et dans le temple, ils baptisent. Pourquoi? Parce que dans le temple, il a chassé les vendeurs du temple. C'est à ce moment-là, c'est vraiment au début, hein, que Jean le met vraiment au début. Les disciples, ils chassent les vendeurs du temple. Le temple, c'est le corps. C'est le Saint des Saints. C'est la présence, c'est ce qu'il y a de plus sacré, quoi. Dans le monde entier, et dans l'instant présent. Tout de suite, immédiatement, de la conception, avec ses premiers disciples, tout de suite. Le temple, tout de suite. Et pour bien comprendre, pour nous aujourd'hui, les pharisiens disent à Jésus, vous saviez ça, je pense, j'espère. Mais enfin quoi, ça fait 46 ans qu'on a mis pour construire ce temple. Et c'est quoi ça? De quelle autorité tu fais ça? Chapitre 2, les pharisiens, pourquoi tu fais ça? 46 ans, c'est extraordinaire, pour nous c'est facile. 46, c'est un chiffre qui est... On comprend tout de suite, nous, aujourd'hui. Il y a 46 chromosomes dans le premier génome. C'est dans le premier génome qui apparaît, quoi. 46 chromosomes, quoi. Ça fait 46 ans. Il a fallu 46 ans pour construire le temple. Et toi, tu si c'est dévasté, tu dis que en 3 jours, tu le refais. Oui. Et alors, chapitre 2, verset 22. L'évangile de Saint-Jean, comme par hasard, facile à se rappeler, hein. Chapitre 2, verset 22, Jésus parlait de son corps, lui. Du corps de Dieu, du Saint des Saints de Dieu, et de son corps, quand il a pris corps, quand sa conception de son propre corps, quand Dieu a pris possession de la possession du corps de Jésus, du corps de Dieu. Et une fois que ça a été dévoilé, alors à ce moment-là, il baptise. Et du coup, l'Ancien Testament peut venir vers lui la nuit, dans la foi, ça veut dire, et apprendre ce que c'est que la nouvelle conception, la nouvelle alliance, la nouvelle naissance, et la grâce terminale et finale. Et bien ça, c'est en ce temple-là qu'Ézéchiel a été conduit, il faut lire, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8 et 9, toujours, hein, c'est vraiment des passages qu'on doit savoir par cœur. Et là, aujourd'hui, chapitre 47 d'Ézéchiel. Chapitre 8 et 9, c'est la gloire angélique. La gloire angélique. Et tous les séraphins, etc. Et Dieu lui-même se rend présent, parce que le Fils de l'homme venant sur les nuées qui doit venir, de la fin Jésus. Et là, dans le temple, il doit marquer du sceau de la conception de la gloire de Dieu dans le temple et de la gloire de la fin, tous ceux qui supplient à le Saint des Saints, supplient comme Joseph pendant 38 ans, pour qu'il y ait le fleuve qui réjouit la cité de Dieu, dans les bras réjouissent la cité de Dieu. Les bras de Marie, l'acte de Marie. Marie, mais pas seulement l'acte, le bras de Marie, les bras de Marie, qui étreignent la cité de Dieu. Alors on est en plein là, ici. C'est vraiment le jour d'aujourd'hui. Il y a tous les rayons laser se concentrent là. Sur ce point extraordinaire. Et l'homme, faudrait lire attentivement, vous savez, parce que ce passage de l'évangile de Saint Jean, chapitre 5, est éclairé, parce que l'Église met pour l'éclairer le livre d'Ézéchiel, chapitre 47. C'est de la croix que sort le Saint-Esprit, chapitre 47, pour le monde angélique. Et là, on peut s'arrêter un peu parce qu'on sait que ça désigne justement la transverbération de Marie et de Joseph dans leur unité responsable, dans ce qui reste de la matière de leur corps et dans un amour en même temps séparant et à l'intérieur de la croix glorieuse. Parce qu'il faut qu'on suive ce petit parcours, ce grand parcours que l'Église veut nous introduire pour qu'on y voit, pour qu'on regarde la montagne qui s'est effondrée dans les eaux pour faire bouillonner le monde angélique, pour la réparation universelle. Pour l'annonce de l'évangile à toute conception, humaine, pour que ça envahisse par les torrents de la nouvelle naissance. C'est comme si la nativité se retournait sur elle-même de Noël et venait s'engloutir, non pas vers la vie adulte, mais s'engloutir dans la conception. Et c'est ça la vision d'Ézéchiel. Le Noël glorieux, ce qu'on appelle le Noël glorieux. Le Noël des sceaux, du cinquième sceau de l'Apocalypse. C'est une nativité qui vient s'engolfer, qui vient envahir toutes les conceptions humaines. Très belle vision de cet Ézéchiel, mais c'est magnifique, parce que c'est magnifique. Alors, la piscine de Bethesda, elle est sur le côté. Si vous voyez, il faut visualiser souvent. Quand vous allez à Jérusalem, si vous allez sur... la montagne des Oliviers, vous voyez, là-bas, ça descend au fond du Cédron, ça remonte, et puis vous avez vu des photos, en tout cas, où on voit le dôme tout doré de la mosquée, et il y a un rempart de Jérusalem, trois portiques, qui est au-dessus d'une espèce d'océan de tombeau, quoi. Cette porte est toujours immense porte, une porte de l'Orient. Tourner vers l'Orient. Et toute la Bible, toute la tradition dit que quand le Messie viendra, il passera par cette porte, les portes vont toutes s'ouvrir là. Mais pour l'instant, personne, tant que c'est pas le jour du prophète Isaïe, quoi. Non, tant que c'est pas reste fermé. Et donc on passe par un. Si on va sur la droite, quand on regarde comme ça du monde des Oliviers, un peu en hauteur, un peu à droite, eh bien, il y a des portes. On peut passer par la porte du côté nord. C'est par là qu'il y avait la piscine de Bethesda, qu'il y a toujours. On peut voir les cinq portiques. C'est collé au mur de Jérusalem qu'il y avait cette porte qu'on appelle la porte des brebis. Ou si vous prenez la porte de l'aiguille, c'est la même. Et cette porte-là, c'était... la plus petite, dans la grande porte, et puis sur le côté nord, une toute petite porte, et on appelait ça la porte des brebis, parce que c'était à la hauteur des brebis, en fait. Vous passez, tu faisais rentrer dans Jérusalem les brebis, les agneaux, tu faisais par là, et puis il y avait une petite piscine contre le mur du temple, une petite piscine où tu lavais les agneaux. On lavait les agneaux, les petits agneaux, l'agneau était lavé là. Et puis après, on l'introduisait dans le temple. Et pour ça, combien de fois Marie, enfant, passait de là. En plus, c'était tout près de la maison de Sainte-Anne, Saint-Joachim, qui était à Jérusalem. C'était là, qui était mis à leur disposition par de très grands amis, la famille de Béthanie. D'ailleurs, c'est là que Sainte Anne-Catherine Emmerich a dit que c'est de là, qui passait de là, Joseph et Marie quand ils se sont mariés. Du temple à là, de là au temple. Où est-ce que ça se fait? C'est parce que la maison de Sainte Anne était là. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit encore, voilà, c'était là qu'il y avait la maison de Sainte Anne. D'ailleurs, il y a une basilique Sainte Anne, il y a une église consacrée à Sainte Anne, mère de Marie. Eh bien, on appelle ça la porte de l'aiguille. À un moment, Jésus dit ici, personne ne peut entrer par la porte de l'aiguille. C'est aussi difficile d'entrer dans le royaume de Dieu que d'entrer par la porte de l'aiguille. La porte de l'aiguille, c'est la porte des brebis. Pourquoi? Parce que les chameaux, quand ils arrivaient là, s'ils étaient couverts de bagages, de richesses, etc., eh ben, pour passer cette porte, il fallait qu'ils se mettent à la hauteur de l'agneau. Donc il fallait qu'ils se mettent à genoux, qu'ils baissent la tête, qu'on enlève tout leur bagage, toute leur richesse. Et s'ils étaient entièrement dépouillés, ils se mettaient à genoux et on arrivait à les faire passer par la porte de l'aiguille. C'est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau d'entrer par la porte de l'aiguille. Ça, c'est extraordinaire, n'empêche ça. Voyez, l'humilité, le chameau, ça représente l'humilité. Ou alors, le contraire, l'humilité lorsqu'il se met à la même hauteur que celle du petit agneau. Eh bien, c'était là. Le livre d'Ézéchiel nous dit aujourd'hui, regardez bien, l'homme m'a pris, l'ange, pardon, m'a pris, ou l'homme m'a pris, il m'a pris, il me conduit, il me montre dans le temple, au niveau de l'autel des parfums, là, juste devant le Saint des Saints, qu'il y avait de l'eau qui coulait par-dessous l'autel et qui allait comme ça vers l'angle du temple qui va vers l'Orient, si on regarde le mont des Oliviers, mais un peu vers la droite. Ça représente bien sûr, vous avez tous compris, la blessure, la transverbération du cœur qui fait sortir les eaux en dessous de l'autel du temple, en passant quoi, en dessous du sein du cadavre du temple, là où il y a là, hein, parce qu'on sait très bien que nous a été expliqué que sous la porte dorée qui est du côté du sud, on rentrait et on pouvait passer et se mettre le plus proche possible en dessous du Saint des Saints, donc cet endroit où l'eau, et c'est là qu'on amenait les gens, les époux, pour qu'ils puissent, stériles par exemple, pour qu'ils puissent avoir une bénédiction spéciale pour la conception. Et c'est là que Anne et Joachim, d'ailleurs, auraient été tout proche du Saint des Saints, en dessous, l'endroit où les eaux s'écoulent, et qu'ils auraient été emportés dans une transfiguration mutuelle, spensale, à l'intérieur de laquelle la conception véritable s'est faite. De l'immaculée conception au moment de la torpeur de Saint-Joseph, qui, lui, est de l'autre côté du temple. Si je puis dire, tout symboliquement. Tout ça, c'est très, 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 très fort. C'est très, très fort. C'est une force symbolique. Alors, du coup, l'ange, l'homme, dit Ézéchiel, tu vois ça? Bon, on peut pas y aller. On peut pas passer par la grande porte, aller fermer jusqu'à la fin du monde, du Messie, qui doit revenir pour tout ressusciter d'entre les morts. Alors, du coup, il le fait partir. Oui, je refais le récit qu'on vient de lire. Il le fait sortir par l'autre côté, par le côté, la porte du nord, là, par le vestibule. Par le vestibule, on sort sur le couloir. Puis après, là, on dit d'ailleurs. Et puis, il sort hors du temple, voilà. Et là, il se trouve là, de ce côté-là. Et de là, il peut sortir des murs de Jérusalem par la porte des brebis. Et il sort par la porte des brebis. Alors si vous allez à Jérusalem, vous le voyez, cette partie du temple là, il y a une pente comme ça, c'est pentu, ça va. Surtout si on va sur le côté droit, hein, le côté où l'eau sortait. Enfin, peu importe, ça, c'est un peu pentu, ça descend. C'est par là que Jésus est passé, venant du Mont des Oliviers, dans le torrent du Cédron, pour remonter vers les murs de Jérusalem. Lorsqu'il a été embarqué pour la condamnation dans Gethsémani. Alors, ça descend, ça. Combien de fois, qu'est-ce que j'aime, moi, passer par là. Et donc, il le passe, ça descend un peu, il le fait descendre, et l'amène au pied des remparts, enfin, un petit peu plus bas, et il l'amène en direction au fond, où il y a le torrent du Cédron, hein. Et il lui fait voir ce qu'est devenu cette eau qui sortait de sous de l'autel du parfum. C'est vraiment... Tout ça, mystiquement, c'est parfait, quoi. Et alors là, les eaux sortaient, côté gauche, du corps de Jésus. Les eaux sortaient du corps de Jésus. Une abondance. Et là... Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une mesure. Comme ça. Une mesure, et il mesure 1000 coudées. Une mesure, c'est 5 paumes de la main. 5 paumes, voilà, ah, oui, c'est ça. Vous voulez savoir ça? 1, 2, 3. Et en fait, c'est du coude jusqu'au bout de la phalange. En fait, là-bas. 1000 fois. Vous avez tout compris. Ça dépend des gens qui disent 456. Moi, je préfère dire 444. Peu importe. Parce que c'est une petite variable. Selon les Mésopotamiens. Bref. Mais enfin, allez. C'est en tout cas une coudée. Du coude jusque-là. Jusqu'au bout du majeur. 1000 fois. Et l'homme le fait passer, le prophète. De l'ange dans cette eau. Il le fait rentrer dans cette eau. Et il en avait jusqu'aux chevilles, ça représente la ferveur. La ferveur pour être purifié, que notre ferveur soit immaculée. Puis il refait. Il le fait faire, au fond, enfin 440 mètres plus loin. Dans le torrent du Cédron, là-bas. Il en avait jusqu'au genou. Il pourrait être purifié aussi. Dans tout ce qu'il conduit. Sa volonté propre. Sa volonté charnelle. Entièrement purifié. Puis après, il le fait rentrer avec encore 444 mètres. C'est sacerdotal, 440 mètres plus loin. 1000, c'est l'Immaculée Conception. C'est l'union entre Saint Jean et Marie au pied de la croix. C'est ça la mesure. Vous l'aviez compris, je suppose. Et après, c'est jusque entre les entrailles et le cœur. Jusque-là, jusqu'entre les entrailles et le cœur. C'est magnifique, ça. C'est trop magnifique, ça. On sait très bien ce que ça veut dire, c'est ça, Joseph. Saint Joseph, il nous place toujours entre la miséricorde à l'intérieur du monde incréé de la paternité de Dieu et l'amour. C'est la parabole du fils prodigue qui nous a appris ça. Et entre deux, il y a la lumière. C'est typique de Saint-Joseph, il faut être purifié jusque dans cette aspiration à la conception de l'Église tout entière de la femme. Il va, pour quand il est de cette conception qui est la sienne, il ne cesse de brûler d'amour, de désir, de soif pour aller vers le cœur qu'il ne trouvera finalement que 19 ans plus tard, mais et encore mystiquement. Et tout le temps, il revient tout le temps de sa naissance aux flammes de son désir à sa source pour revenir à sa memoria, à sa memoria. Alors voilà, ça c'est purifié. Voilà, ça aussi, l'ange d'Ézéchiel, Ézéchiel avec son ange, et l'homme amène le prophète de l'ange dans cette troisième fois. Il en a jusque Saint-Joseph, il y a la purification de Saint-Joseph, la transverbération de Saint-Joseph, c'est réalisé comme ça, 440 fois avec le sacerdoce Annique, dans l'Immaculée Conception, à la mesure de Dieu qui était attendu par tous les temps. Et que les anges vont regarder pour faire bouillonner de tous les diamants dans l'eau, dans la montagne. Et encore mille fois, c'est beau ça. Si vous calculez bien, ça fait à peu près 1900 mètres au total. Et là, c'est débordé. Je peux pas. Les torrents sont tellement puissants. Ça représente bien sûr la quatrième demeure. Tu peux pas aller autre. Tu ne peux pas. Les torrents sont. Tu es complètement submergé. Là, du coup, le prophète de l'ange est ramené par l'homme vers leur rivage. Il est ramené. À partir de la quatrième demeure, tu es dans une disponibilité. Toute ta vie contemplative, toutes tes puissances sont englouties, rassemblées dans l'un. Et là, tu es aux portes. À ce moment-là, la cinquième demeure fait que c'est Dieu lui-même qui prend en charge, qui te prend en charge et qui t'amène lui-même sur le rivage. Le sol solide du corps spirituel venu d'en haut. Il est beau ce passage, de toute façon, tout le monde aime ce passage du livre d'Ézéchiel que l'Église nous donne pour justement nous reconcentrer, nous moindre, à nouveau redescendre d'une nouvelle manière dans la croix glorieuse. Depuis que Marie, comme ça, est la reine des anges. Quand on dit que Marie est reine des anges, voyez, on fait un petit peu du catéchisme, de l'exégèse fondamentale, là, littérale, quoi, à chaque chiffre, ça va. C'est quand on dit qu'elle est reine des anges, ça veut dire qu'elle est la dixième hiérarchie. Les neuf hiérarchies angéliques, glorieuses, sont dans la vision béatifique, mais elle est emportée, là, au jour de la croix glorieuse, elle est emportée à travers cette terre des mains nouvelles qui, elle, de la croix, elle est emportée, assumée par Dieu. Et son sacerdoce, le sacerdoce de Jésus qui s'inscrit pour la première fois en communion avec son sommeil d'obéissance virginale à l'intérieur du sacerdoce sacramentel et tous ses fruits. En Saint Jean, 444 fois 1000, qui se croisent comme ça, pour faire la mesure de ce qui se réalise à ce moment-là, dans le Saint des Saints, du corps cadavérique de Jésus. Alors elle devient médiatrice. Et médiatrice, c'est-à-dire elle est en affinité avec le sacerdoce éternel de Jésus, qui est entré avec Joseph, avec son père, qui avait rentré et a emporté la nature humaine entière à travers Joseph, le premier à entrer dans la lumière de gloire, du face-à-face de Dieu. Donc aussitôt là, il y a quelque chose de la résurrection et de l'ascension qui a commencé. Et elle s'y conjoint. Ils sont trois en un, en trois. Sacrement de Joseph, sacrement... en Saint Jean du sacerdoce et le sacrement de la croix glorieuse à l'intérieur de la lumière de gloire. Et du coup elle est médiatrice parce que du coup elle est en affinité, on pourrait presque dire, le théologien dit affinité, c'est-à-dire un même poids. Le sacerdoce de Jésus, c'est pas dans sa personne divine qu'il est prêtre Jésus. C'est dans son humanité. Le caractère du sacerdoce s'imprime dans l'âme humaine. C'est un caractère. Et bien, c'est à cet instant-là, quelqu'un, on essaie toujours de dire qu'est-ce qui s'est donc passé pendant la première demi-heure, dans la première heure, dans les deux premières heures, dans les trois premières heures. De plus en plus, on va regarder une chose après l'autre, ce qui s'est passé. Successivement. C'est d'abord mille côtés, puis mille côtés, puis encore mille côtés, puis encore mille côtés. Et puis après, c'est les côtés, puis après, ça va assainir la mer morte. Ça va assainir la mer morte. Ça va assainir toutes les mers. Toutes les océans de la mort. Pour en faire des sources de bouillonnement, des fruits de tous les sacrements, la Jérusalem, le monde nouveau. Les sceaux de l'Apocalypse. Donc c'est normal que l'Église pose notre attention. Et en même temps, je dis que donc, quand on dit qu'elle est mère des anges, reine des anges, ça veut dire qu'elle est médiatrice en communion avec le sacerdoce dans une affinité, mais assumée au-dessus de toutes les gloires angéliques. Et elle est mère, c'est-à-dire, elle est mère, sa maternité est glorieusement au-dessus des anges, dans la gloire de son assomption, elle est au-dessus. Elle n'est pas au-dessus, elle est mère. Elle engendre dans le monde angélique des neuf hiérarchies. Elle engendre à l'intérieur d'eux ce qui émane du corps, de la conception, du Saint des Saints, de la paternité, créatrice de Dieu ouverte. Et ça, c'est tellement étonnant, on voit dans les Ézéchiel chapitre 8 et 9, les anges qui s'engloutissent dans le temple de Jérusalem. Ça l'appelle au fond de Marie. Et tous les cercles, tout ce que Marie ne cesse de faire tourner dans son cœur de reine, de mère, elle engendre vraiment quelque chose. Et elle permet au corps et au sein des saints d'être le lieu où les anges eux-mêmes vont s'abreuver, rentrer petitement, minusculement dans la porte de l'aiguille, pour rejaillir dans l'unité de l'Église tout entière, parce que l'Église est une sainte catholique apostolique, et le monde angélique fait glorifier de cette manière-là, fait partie de l'Église. Par le miracle des trois éléments. La rencontre de l'ange, du corps, de la prière, de mon sein du corps primordial, réceptif du corps spirituel venu, de la fécondité de Marie dans le corps de résurrection qui va petit à petit nous adapter jusqu'à ce que 19 ans après, il puisse y avoir la première résurrection de tous les enfants qui ont été conçus. Dans la Pentecôte de l'Immaculée Conception, par contre, ça sert un tas de l'Immaculée Conception. Et c'est vrai que dans la cinquième demeure, les torrents, on ne peut plus nager par nous-mêmes, on ne peut plus résister au courant. Et c'est une chose vraiment extraordinaire. Ça, comme d'ailleurs dans le fond du cédron, là. Et les eaux s'élèvent comme ça. Quand Jésus, après l'Eucharistie, est descendu, il est remonté comme ça là-bas, sur le mont des Oliviers. Il est remonté sur le mont des Oliviers, à l'endroit où Adam avait pleuré son péché. Où Saint Joseph, à chaque fois qu'il allait à Joseph, pleurait le péché de l'humanité tout entière. De son vivant, chaque pas qu'il faisait, chaque larme, des larmes de sang, Saint Joseph aussi. Et Jésus est venu pleurer à Gethsémani, là. Il est remonté vers le mont des Oliviers, là. Hein? Et si vous faites, comptez le parcours de 1900 mètres, à peu près, si vous comptez le parcours jusqu'au sommet du mont des Oliviers, vous savez, ça fait 3,5 km, finalement, en partant du temple. Comme par hasard. Hein? Un temps, et un demi-temps, on trouve ça, trois et demi, dans l'Apocalypse. Tout se situe là. C'est-à-dire qu'on est vraiment invité. Invitation. Toutes les invitations, tous les mitzvot Elohim nous invitent là. À nous laisser écouler, emporter, amener. Ce n'est pas nous qui allons faire le trajet. Non, c'est la cinquième demeure. Ah, il ne fait pas faire 1000 mètres de plus hein, pour la cinquième demeure, vous avez remarqué. Non, non. Cinquième demeure, c'est Dieu qui fait tout. De la disponibilité d'un étriant de tous les torrents qu'on ne peut pas maîtriser dans le fond du torrent qui sont là. C'est Dieu qui passe et qui nous conçoit d'une manière nouvelle dans la conception de la nature humaine toute entière. Et donc il faut vraiment, eh bien, tous ceux qui passent par là, hein, on peut relire si vous voulez, tous ceux qui passent par là, tous ceux qui prennent ce chemin de Saint-Joseph, dans le Saint-Dessin, la paternité ouverte, dans la reprise en main du corps originel de Jésus, de Marie et Joseph, de Jésus, dans l'Eucharistie, tout cela, ils vivront. Ils vivront, ils assainiront les eaux de tous les côtés, de tous les bords, les arbres fruitiers, les poissons, l'église, les poissons vont foisonner de tous les côtés, partout, jusqu'à être plus mort dans les eaux, jusque dans les océans, et partout, jusqu'à le firmament d'en haut et le firmament d'en bas, partout. Tous ceux qui passent par là vivront. Vivront les sceaux de l'Apocalypse. L'Église nous concentre, l'Église, dans un des textes qui nous concentre là-dessus. Et on va se laisser emporter dans cette magnifique déploiement séraphique. Et incarné dans lequel l'Église va être entraînée si elle s'inscrit dans la fécondité eucharistique pontificale infaillible. Il y a vraiment quelque chose d'important là. Hein? Donc aujourd'hui, s'il doit y avoir un exercice, si je puis dire, où nous allons mettre un pas dans l'autre, ou du moins Jésus va nous mettre. Il va marcher et nous forcément il va prendre notre pied, il va prendre notre ferveur, il va prendre nos genoux, il va prendre nos reins, nos entrailles, il va prendre tout nous-mêmes pour avancer avec lui, pour nous emporter avec lui, pour être porté par Saint-Joseph, pour être étreint par l'unité extraordinaire qui se fait. Au fond de la croix, c'est pas. Ah, pour d'un seul coup, on soit rempli de toutes les joies, toutes les paix, présentes, passées et futures, jaillissantes, en l'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse. On va 10 minutes. Non, mais il y a un moment d'oraison aujourd'hui. C'est très important puisque l'oraison est le lieu, l'instant, le seul. Où Dieu peut se saisir de moi, corps, âme et esprit, pour transformer ma vie en sa propre vie. C'est pas moi qui, à la force du bras, peut le faire, ça. Il faut que j'y sois conduit par le coude. Il faut que je sois conduit, il faut que je sois conduit. C'est encore une petite parenthèse pour la culture générale, quoi. Il faut comprendre quand même à un moment donné qu'on est juif. Par Abraham, par Moïse, par le mystère ardent de l'Immaculée Conception, on est juif, quoi. Par Joseph, on est juif. On est des membres du roi d'Israël, quoi. Le roi fraternel de l'univers, on est juif, on dit qu'on est juif, jusqu'au bout, dis-toi. Jusqu'à la racine, ah oui, jusqu'à la racine, ça oui. Alors, c'est la symbolique, voyez la main, symboliquement, ça représente les actes que Dieu fait à travers nous. Dans la main, par exemple, dans l'Apocalypse, de Jésus, fils de l'homme, qui déclare qu'il est là devant Saint Jean, au chapitre 1 et 2 de l'Apocalypse, eh bien, il y a une étoile. L'acte de Jésus glorifié, c'est l'Immaculée Conception. C'est ça, c'est son acte pur. C'est l'Immaculée Conception, c'est la poussée à l'état pur. Originel et glorifié. Bien sûr, qui donne, il pose sa main sur notre tête. Ça veut dire, il fait rentrer son acte d'Immaculée Conception dans nous. Le coude, ben le coude, je vais vous le dire, c'est là, c'est ce qui nous conduit. Le coude, c'est ce qui nous conduit. Quand vous vous mariez, vous allez à l'hôtel en mettant le creux de votre coude. Dans le creux du coude des deux époux, hein. Le papa d'abord, pour commencer, il faut rentrer avec la... Toc. Il rentre dans l'église avec le papa, elle sort avec l'époux. C'est extraordinaire. Entre les deux, il y a le sacrement. Passer du père à l'époux. Passer du père à l'époux, c'est la même chose que de passer du verbe de Dieu à l'épouser. Et bien, vous remarquerez bien que vous mettez ici, là, ça veut dire l'alliance, elle se fait. Si c'est de l'amitié, c'est coude à coude, c'est pas coude dans le coude, ça, c'est pas. Non, non. Pourquoi? Parce qu'on est conduit. On est conduit dans la responsabilité, dans l'alliance, on est conduit par l'unité des deux. Ça, c'est la mesure de notre vie. Il y avait un je ne dirais pas qui c'est, parce que bon, on en parle beaucoup en ce moment, mais un père, un prêtre que je connaissais, qui confessait beaucoup, et puis qui avait beaucoup de disciples, bon. Et il disait, quand on est vieux, on a, avec les doigts, on n'a peut-être pas, on y voit plus très clair, on entend plus, peut-être très bien, mais enfin bref, on ne sait pas les choses pareilles. Mais par contre, le sens du toucher, alors là, on sent les choses. Par le sens du toucher, on sent tout, quoi. Alors, et ça faisait partie de ces, pour lui, des choses de discerner si quelqu'un était un disciple ou pas. Il le prenait par le coude. Il le prenait par la côte, je me rappelle. Et puis, il osait faire quelques pas avec lui, mais en le prenant par le coude. Et il sentait s'il y avait une petite réticence, un petit frein. Il dit, celui-là, il ne peut pas rester. Puisqu'il ne peut pas, il ne laisse pas conduire, il n'est pas disciple. Et ce qu'on a, ce qu'on faisait à lui, et je ne sais pas pourquoi, on se trouvait avec, on posait la main sur son genou gauche. Et il sentait tout de suite, et d'ailleurs, je peux vous le dire, on sent tout de suite, immédiatement, d'un côté comme de l'autre, on sent tout de suite s'il y a une réticence de toucher le genou du confesseur, comme ça. Petite réticence. Moi, j'avais une réticence totale. Il le sentait. Il le sentait tant qu'il n'insistait pas. Il n'insistait pas. Je ne dis pas plus, mais c'est. On sent les choses. Vous voyez, le genou, c'est. C'est vraiment le refus, vous voyez, ça représente le refus d'être conduit même dans le péché véniel, c'est la deuxième demeure. Il faut faire oraison dans la deuxième demeure pour être à un endroit dans l'oraison où il n'y a pas le moindre mouvement qui vienne du péché véniel, même le moindre, même le meilleur des millimètres de santé, quoi. La signification du genou, la signification de la coudée, la signification de la main, d'après la Bible, d'après, de chaque lettre, de chaque chiffre, de chaque mot. Ça n'a l'air de rien, mais vous voyez, l'enfant commence comme ça, en Israël. Et le premier mot qu'il prononce, c'est... face à face avec son papa. Et ça a une importance très très grande parce que les lettres réalisent ce qu'elles signifient. Surtout quand elles se situent à deux. Et donc aujourd'hui, ce serait magnifique. On doit respecter le monde angélique. On doit avoir faire miséricorde de le deuxième fils aîné. On doit faire miséricorde au monde, c'est le monde. On doit respecter le mardi. On doit ouvrir le mardi à cette invasion du monde séraphique et angélique à l'intérieur de notre prière. On doit leur faire miséricorde. Et on doit les inscrire à l'intérieur du corps spirituel de la cité nouvelle. De la porte côté de quelques conception dans le corps spirituel venu d'en haut, des élus. On doit faire oraison aujourd'hui, de manière que Dieu amène lui-même en nous, à travers nous, instrumentalement, comme dans Saint-Joseph, la transformation du corps de l'humanité tout entière. Alors à ce moment-là, c'est Dieu qui passe en nous. Et il y a cet or qui sort de sous l'autel des parfums du Saint-Saint et du côté du temps, voyez les trois transverbérations précieuses du cœur de Jésus. L'eau et le sang. Alors le vin est changé en précieux sang. L'oraison, c'est l'eau est changée en vin, mais dans le cœur du Christ, mais là, c'est le cœur du Christ, Jésus-Marie-Joseph, qui est changé. Résurrection et qui transforme notre raison. C'est du vin au précieux sang. Dans la cinquième demeure, au moins, laissez Dieu me prendre. Il faut être entièrement englouti, évidemment, dans la quatrième, dans les quatre fois mille mesures de l'eau dans laquelle le prophète de l'ange nous fait entrer. Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose. Comment expliquer ça? Faire oraison n'est pas compliqué. Il suffit de donner juste du temps. On prend bien du temps aujourd'hui pour regarder un film. Et un film, ça dure une heure à peu près. Alors on peut prendre quand même un petit peu moins d'une heure, peut-être, si vous voulez, mais plus d'une demi-heure. Pour donner du temps à Dieu. Et s'il y a un seul pensée, mouvement, etc., qui vient perturber tout ça, vite, on passe aux mille côtés suivantes. Vite, on passe ensuite aux mille côtés suivantes. Tout le temps, on revient. Non, je ne veux que l'Immaculée Conception. Je ne veux que ce qui se passe dans la ferveur inouïe. Des océans d'amour, de lumière, de la Pentecôte de l'Immaculée Conception engendrée par le cœur eucharistique du Christ en la fin du monde. Là, il n'y a que ça, rien d'autre. Et j'y reviens tout le temps, jusqu'à être englouti. J'y reviens. Je suis une victime d'amour. silencieux, un cri silencieux, unique, universel, catholique d'amour. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, d'ailleurs, le fait. Il me calme. Il me mène à l'intérieur vers les eaux tranquilles de le fond de moi, où je suis dans le oui installé en Saint-Joseph, Monsieur Marie. Et je suis à ce moment-là disponible, surnaturellement, dans la quiétude. Et ça, je le vois parce qu'il n'y a plus rien qui bouge à l'intérieur de moi. Et du coup, il y a un souffle très, 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 très délicat de Dieu qui très délicatement envahit le monde à travers moi, c'est bien. Ça, c'est l'horizon de quiétude. C'est la quatrième demeure. Et une fois que je suis là, jusqu'à ce que je sois perturbé par un coup de téléphone, je ne sais pas quoi. Mais une fois que je suis là, je reste disponible. Et disposez de moi comme bon vous semble. Parce que je vous appartiens entièrement. Mais... Et j'attends. J'attends. Pour ça, je travaille jusqu'à ce que je sois dans les mille coudées suivantes. Et à un moment, Dieu passe et m'ouvre à la pénétration séraphique de la 10e hiérarchie. Le fruit du sacrement de l'Eucharistie pendant les 19 jours qui viennent maintenant jusqu'au vendredi saint. C'est essentiel. Et une fois que je suis là, d'ailleurs c'est marrant, c'est Saint Thérèse d'Avila fait des descriptions tellement précises qu'on ne peut pas se tromper, c'est impossible, c'est pas du vide qu'on fait, hein, attention, dans cette horizon c'est pas du vide, on ne fait pas le vide, on est rempli. C'est Dieu qui nous remplit, et remplit le monde entier à travers nous, ça c'est quatrième demeure, et on est en paix. Et à un moment donné, cinquième demeure, la prière qui est quand même une espèce de verre de terre, vous savez, comme la chenille, immonde, là, tout ça. Si tu appuies dessus, ça fait du pu, ça fait du. C'est vrai. Et puis, et bien, cinquième demeure, c'est ce verre immonde, là, c'est un papillon. D'un seul coup. Dieu passe, et c'est tout à fait autre chose. Mais c'est tellement autre chose que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu es incapable même de voir ce qui se passe. Tu es incapable même de t'en rappeler. Dieu, la seule chose, c'est que le temps est suspendu. C'est la seule chose que je puisse dire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le passage de Dieu dans la cinquième demeure est très, très facile. Enfin, c'est pas facile, toi, de le faire, justement. C'est Dieu qui passe. C'est lui qui le fait. Et c'est lui qui opère. À ce moment-là, il ne te reste plus. À ce moment-là, aspirer, que ce soit tout le temps comme ça, et que tu es toi-même une victime d'amour. Une victime d'amour pour toi, pour toute l'Église, et pour toute la création spirituelle du passé, du présent et du futur. Victime d'amour éternel, dans le mariage spirituel. Ça, c'est Dieu qui le fera, ne vous inquiétez pas, ça. C'est pas toi qui as force de ramer, hein, de te dire de passer de la cinquième à la sixième et septième demeure. Hein. Mais c'est là que Dieu nous attend. C'est dans l'horizon, c'est le seul moment des trois derniers sauts de l'Apocalypse. C'est le seul lieu où Dieu peut avoir liberté d'être présent dans notre monde. Pour la gloire. Et la joie angélique. Alors à ce moment-là, on le sait, l'Apocalypse nous le dit, le royaume de Dieu sur la terre, l'Église sur la terre, connaîtra cette jubilation d'une Église sans strictement pas l'ombre d'un péché. Même Véniel, même le plus petit, le plus minuscule, tous ensemble, tous les êtres survivants de la terre seront là, et ceux qui dépasseront la jeunesse à 100 ans, quoi. 100 ans, donc on est bien d'accord, c'est la 10e hiérarchie. Si c'était cette présence totale de l'Immaculée Conception, reine et mère et féconde, de la gloire jusqu'à notre terre, dans la Jérusalem des mille ans, de l'Apocalypse, chapitre 20 de l'Apocalypse, d'abordement de Saint-Joseph et de Marie, chapitre 20 de l'Apocalypse, qui doit descendre jusqu'à nous, jusqu'au sept tonnerres, cette trompette d'aujourd'hui. Et il y aura cette Jérusalem qui représente en fait, c'est sûr qu'Ézéchiel n'a pas pu être emporté dans les mille coudées suivantes. Mais les mille coudées suivantes, on sait, c'est ça. C'est le sceau de l'Apocalypse. Le secret que nous devons recevoir. Le carême de cette année, c'est pour commencer à le recevoir réellement, comme prémisse. Dans le premier. À ce moment-là, toute la vie divine de Jésus entier et glorieux pourra se former dans toutes les êtres spirituels qui existent. La formation de la vie divine de Jésus, où Jésus donne sa propre vie, dans toute sa création, à travers nous, c'est notre plus grande gloire. C'est la gloire à laquelle l'Église demande de nous préparer instamment. Faut pas lâcher prise. Faut pas lâcher prise dans la fidélité profonde à laisser cette liberté originelle pour nous incréer de Dieu, pour Dieu se conjoindre dans une seule liberté dans l'un et donner ses temps à Dieu. Alors, il y a cette descente prodigieuse venant de Saint-Joseph jusqu'à nous, de la Sainte Famille glorifiée jusqu'à nous, qui a dévalé, déversé la coupe dans toute la Jérusalem dernière. Et ça descend jusqu'à nous dès maintenant pour qu'on puisse remonter à cette conception qui est à l'intérieur de l'Assomption, féconde et glorieuse. De Marie médiatrice, dans sa sponsorité, effectivement, surabondante à l'intérieur de tout ce qui existe et à partir de son assomption dans la donation eucharistique, et nous le recevons comme venant de l'épouse et de l'Esprit Saint. Là, il y a un appel très fort, comme jamais, quoi, à favoriser pendant ces 19 jours qui viennent. C'est l'appel de l'ange, la trompette a sonné. Et dans ces 19 jours qui viennent, ce serait une très belle chose, vous voyez, si c'était une retraite de carême qu'on prêchait, ce serait une très belle chose de dire, voilà, c'est peut-être à partir d'aujourd'hui le moment de prendre votre livre de Saint Jean de la Croix, son livre suprême, ses vives flammes d'amour, c'est ce qui se passe dans la septième demeure. Qu'on puisse lire ce qu'il dit là, comment il le commente, d'en lire un petit peu pour que cette oraison qu'on fait dans la septième, dans les sauts de l'oraison qu'on va faire jusqu'à Pâques, c'est parole quand même du Saint-Esprit à l'Église, hein, et docteur de l'Église, hein, vive flamme d'amour, ben, ça s'inscrive en nous et ça se réalise en nous. Parce que si on l'a désiré en le lisant, ben Dieu le fera en nous dans l'oraison. C'est une très belle chose, vous voyez. Sûrement. Vive l'âme d'abord. Mais vous voyez, il faut le dire dans un contexte, vive l'âme d'abord. Ça se dit pas comme ça. Ça se dit dans ce désir de l'état victimal éternel d'amour. Je suis votre victime d'amour. Je suis votre victime d'amour. Jésus, Marie, Joseph, je suis votre victime.